Léonard Reichen.
Bonjour. Les chiffres de la vaccination Covid à deux doses sont excellents dans le canton de Neuchâtel, mais ceux de la troisième dose sont médiocres. Un paradoxe au sujet duquel il n'existe pas d'explication simple. Il ne suffit pas de décréter la fin des travaux pour pouvoir reprendre le trafic ferroviaire. C'est en substance ce qu'explique l'Office fédéral des transports au sujet de la ligne Fleury et Butte. L'OFT a dû demander des compléments à Transène en vue de l'homologation. Sauf accident, Union Neuchâtel devrait disputer son match des quarts de finale de la Coupe de Suisse samedi à Lugano. Pour l'instant, le club de basketball ne compte que deux joueurs positifs au Covid-19, alors que les Tessinois sont désormais hors de quarantaine. Éclairage dans le point sport avec Yann Esler. Un bel après-midi prévu dans le ciel de la région. Les températures resteront froides en pleine avec de la bise. Léger redoux prévu sur les hauteurs. Neuchâtel est dans une situation paradoxale au niveau de la vaccination contre le Covid-19. Alors que le canton fait partie des meilleurs en ce qui concerne la proportion de la population qui a reçu deux doses, il se retrouve parmi les mauvais élèves en ce qui concerne l'administration de la troisième dose. C'est ce qui ressort des chiffres officiels de l'Office fédéral de la santé publique parus depuis le début de la semaine. Julien Hirt, vous êtes penché sur les chiffres.
Ouais, des chiffres qui effectivement paraissent contradictoires, jugés plus plutôt, selon le relevé de l'OFSP paru lundi, un peu plus de 70% de la population neuchâteloise est entièrement vaccinée, 70,2% pour être exact. Ça, c'est environ 3 points de plus que la moyenne nationale. Et il n'y a que deux cantons qui font mieux, Bâle-Ville et le Tessin. Neuchâtel, champion de la vaccination, c'est une réalité depuis le mois d'octobre où le canton était le premier de la classe. En 1882, Neuchâtel se distinguait déjà en matière de vaccination, rappelait RTN en novembre au sujet du oui solitaire du canton à une loi sur les épidémies qui avait été soumise à l'époque. Seulement voilà, au sujet de la troisième dose, c'est exactement l'inverse. Les Neuchâtelois n'ont été jusqu'ici que 24,05% à recevoir la piqûre. La moyenne nationale frôle les 31% et seuls les Fribourgeois, les Genevois et les Obvaldiens affichent des taux inférieurs. Le constat est donc aussi clair que déroutant. Dans le canton de Neuchâtel, on s'est prêté à la vaccination à deux doses avec zèle, mais jusqu'ici, on boude la vaccination à trois doses.
Et forcément, Julien, quand on prend connaissance de ces chiffres, on a envie de savoir pourquoi. C'est ce que vous avez cherché à comprendre.
Et dans ce domaine, les autorités avouent qu'elles ne détiennent pas d'explication claire et nette pour faire la lumière sur ce paradoxe. Or, quand l'Organisation de gestion de crise et de catastrophe, comprenez l'état-major Covid, reconnaît qu'il existe une disparité entre les chiffres de la deuxième et de la troisième dose, mais à ce stade, selon ses responsables, on ne peut qu'esquisser des hypothèses. La principale, c'est celle d'un effet retard. Pour prétendre obtenir le booster Covid, il faut patienter 4 mois à partir de la deuxième piqûre. Or, dans le canton de Neuchâtel, la campagne de vaccination a commencé lentement, mettant la priorité sur les personnes vulnérables dans les homes. En fait, c'est seulement maintenant que la plupart des Neuchâtelois sont autorisés à s'inscrire. Les prochaines semaines permettront donc de vérifier si ce facteur a réellement joué un rôle. D'autres explications entrent en ligne de compte. Le délai pour la troisième dose est passé de 4 à 6 mois. Une partie de la population n'est pas encore au courant. Il y a aussi l'effet Omicron. De nombreuses personnes en ce moment annulent leur rendez-vous parce qu'elles sont infectées par le virus ou en quarantaine. Une partie d'entre elles n'entreront pas dans les statistiques du booster parce qu'elles ont obtenu leur immunisation de manière naturelle. Enfin, parmi les jeunes, il y a aussi les étudiants qui retardent leur injection en raison de la session d'examen qui commence cette semaine. La question est complexe. Certains de ces facteurs s'appliquent à d'autres cantons et n'expliquent pas le paradoxe neuchâtelois. On y verra vraisemblablement plus clair dans quelques semaines.
Julien Hirt, merci pour vos explications. Les autorités sanitaires cantonales, en tout cas, en profitent pour insister. Le dispositif mis en place n'est pas en cause. Il existe en ce moment de nombreuses possibilités d'obtenir rapidement un rendez-vous pour une troisième dose. Et puis c'est une vague Omicron qui pourrait s'abattre sur la Suisse ces deux prochaines semaines, a averti hier l'Office fédéral de la santé publique. Des centaines de personnes vont être hospitalisées chaque jour avec des conséquences non négligeables sur les ressources humaines de diverses entreprises. Certains services risquent d'être impactés dans les jours qui suivent. Frédéric Nejat-Toulami a demandé au porte-parole des CFF, Frédéric Reva, quelle était la situation actuelle et comment les chemins de fer envisageaient ces deux prochaines semaines.
Aujourd'hui, on a une situation assez tendue avec, selon les dépôts, entre 10 et 15% des mécaniciens qui manquent, des pilotes de locomotives qui manquent. C'est pour ça qu'on a dû supprimer des lignes de Léman Express. Et puis pour la suite, on a différents scénarios. Donc en fonction des différentes unités, on peut aussi recourir à du personnel qui, en temps normal, ne circule pas, c'est-à-dire des formateurs ou des cadres. Et puis on a différents scénarios en fonction du nombre d'absences, sachant que les suppressions de trains, c'est vraiment une solution de dernier recours. On essaye d'abord d'épuiser toutes les autres solutions avant de devoir recourir à des adaptations d'horaires et des suppressions de trains.
Et on reste sur le rail des tracasseries administratives. C'est ce qui explique le retard de la mise en service de la ligne ferroviaire reliant Fleurier à Butte. La compagnie de transport public neuchâtelois Transen espérait initialement reprendre l'exploitation au changement d'horaire le 12 décembre après 5 mois de travaux. Mais aujourd'hui, les bus de remplacement sont toujours mobilisés. Juste avant Noël, Transen indiquait que tous les documents pour l'homologation de la ligne étaient en main de l'Office fédéral des transports. Mais l'OFT a dû demander des compléments en raison de la complexité du dossier. Les explications de la porte-parole de l'Office fédéral des transports, Florence Pictet.
Transen nous a fourni encore des documents juste avant Noël et nous a indiqué qu'elle transmettrait des documents supplémentaires au début de cette année, donc qui vient de commencer. On a signalé à Transen à plusieurs reprises ces dernières semaines et mois qu'il faudrait fournir différents documents. Jusqu'à récemment, en effet, on n'avait pas encore tous les éléments nécessaires pour pouvoir prendre une décision.
Quels éléments manquent-ils ou quels éléments étaient-ils lacunaires?
C'est seulement sur la base d'un dossier complet que l'OFT pourra vérifier que les options techniques prises par l'entreprise ferroviaire responsable de la sécurité sont conformes aux prescriptions. En fait, j'aimerais un peu prendre l'image ou prendre l'exemple d'un prof de maths qui soumet un problème à ses élèves. Il ne suffit pas qu'un élève dise « j'ai fini, j'ai trouvé la solution ». Il faut aussi que cet élève puisse montrer au prof concrètement comment il est arrivé à une solution. Donc, on a besoin, nous aussi, de différents documents pour pouvoir vérifier que la solution choisie pour justement exploiter la ligne entre Butte et Fleurier est correcte et correspond aux prescriptions et est viable.
Florence Pictet, porte-parole de l'Office fédéral des transports, au téléphone d'Adrien Juvet. Transen espère désormais rouvrir la ligne au mois de février. Ce chantier a été devisé à près de 20 millions de francs. Durant l'interruption du trafic ferroviaire, des bus de remplacement sont proposés. Un service qui coûte 50 000 francs par mois. La Brévine a grelotté ce matin après une nuit claire. Il a fait à 9h moins 26,8 dans le village des montagnes neuchâteloises, une valeur bien loin du record de 1987 au-dessous des moins 40. La température la plus basse en Suisse a été mesurée sur l'alpage de Hintergreipelen dans le Toggenburg Saint-Gallois à moins 28,4 degrés. Les températures étaient également négatives dans plusieurs localités de plaine au lever du jour. L'optimisation du service de l'action sociale neuchâtelois continue. Dernier né, l'Office cantonal de l'assurance maladie et des bourses d'études. Depuis le 1er janvier, il regroupe l'ancien Office cantonal de l'assurance maladie ainsi que l'Office des bourses. Cette nouvelle entité sera désormais en charge de délivrer les subsides, les bourses et les prêts d'études. Chaque année, ce sont près de 35 000 assurés et quelques 1000 boursiers qui bénéficient de tels soutiens. Deux grands dossiers attendent Marc Josserand. Le nouveau délégué culturel à la ville de La Chaux-de-Fonds a pris ses nouvelles fonctions le 1er octobre et parmi les défis qui l'attendent, le dossier de La Chaux-de-Fonds, première capitale culturelle suisse. Il va falloir trouver des fonds pour organiser cette manifestation. L'idée, c'est de mettre sur pied des collaborations entre les acteurs culturels chaux-de-fonniers avec ceux d'autres régions de Suisse, voire de l'étranger. Ça pourrait être par exemple un spectacle d'une troupe chaux-de-fonnière avec un chœur venant du Tessin et un orchestre vaudois. Des rapports ont été réalisés. L'association La Marmite s'est par exemple approchée des acteurs culturels. Marc Josserand, délégué culturel de la ville de La Chaux-de-Fonds.
L'idée, c'est qu'on avait besoin de gens qui aillent vraiment poser la question aux acteurs culturels chaux-de-fonniers. Qu'est-ce qui, pour vous, serait l'idéal pour une capitale culturelle? On a un rapport de 80 pages. Les gens se sont beaucoup investis, ont beaucoup répondu, ont beaucoup projeté leurs rêves, mais aussi leurs inquiétudes. Et à partir de ces études, de ces projets-là, on a constitué une association chaux-de-fonnière qui est en train de compiler, de rassembler, de synthétiser tout ça pour en faire un projet qui soit présentable justement à ces fameux financeurs, à ces fameux accompagnants de la politique culturelle que sont la Confédération, les cantons. Le canton Neuchâtel est vraiment à fond la caisse avec nous sur ce projet-là, la ville de La Chaux-de-Fonds également. Les exécutifs sont très 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 mobilisés là-dessus. Et voilà, maintenant il va falloir arriver à convaincre plus large, convaincre les entreprises, convaincre les fondations. Et pour ça, il nous faut un projet très, je dirais, très très clair, donc qui sera issu de ces différents rapports.
Marc Josserand qui était l'invité de la matinale, un entretien retrouvé en intégralité et en vidéo sur rtn.ch. Les faillites d'entreprises ont légèrement augmenté l'an dernier en Suisse. Près de 4000 firmes ont dû mettre la clé sous le paillasson en 2021. C'est 4% de plus sur un an. Le cabinet d'information économique Dun & Bradstreet l'indique aujourd'hui. Avec plus 18%, l'espace Mittelland a enregistré la croissance de faillites la plus importante. En revanche, le Tessin a observé une baisse de 17%. Le cabinet note aussi que le nombre de faillites est inférieur aux données enregistrées avant la pandémie. Les crédits d'aide pour les sociétés et le chômage partiel explique en partie cette tendance. Des nouvelles ce matin du Conseil fédéral concernant la mise en œuvre de l'initiative en faveur des soins infirmiers. L'offensive de formation prévue par le texte pourra être mise en place sans tarder, indique le Conseil fédéral. Le texte demande notamment qu'un nombre suffisant d'infirmières et infirmiers diplômés soient formés. Il est aussi prévu qu'elles et ils puissent facturer directement certaines prestations à l'assurance obligatoire des soins ou à d'autres assurances sociales. Et puis au moins 6 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée aujourd'hui dans la capitale somalienne Mogadiscio, ont indiqué à l'AFP un responsable des services de sécurité et des témoins. L'attaque a été revendiquée par les rebelles djihadistes Shebab qui ont affirmé dans un communiqué avoir ciblé des responsables étrangers.
12h26.
Sport. Alors que les quarantaines se multiplient au sein du sport neuchâtelois, Union Neuchâtel devrait pouvoir aligner son équipe samedi en quart de finale de la Coupe de Suisse. Le match est prévu à 17h à Lugano, n'est pour l'instant pas repoussé. Et malgré des blessés, Yann Esler, Union devrait pouvoir compter sur une équipe compétitive.
Oui, Léonard, après la mise en quarantaine du HC La Chaux-de-Fonds, qui a vu tous ses matchs être annulés cette semaine en raison de cas positifs, la probabilité est toujours grande pour que d'autres clubs de la région soient touchés. Mais pour l'instant donc, Union Neuchâtel n'est pas dans ce cas de figure. Lugano, qui avait plus de 4 joueurs de son équipe positifs au virus au début du mois, vient de revenir de quarantaine. C'est une information confirmée par la Ligue. Et du côté d'Union Neuchâtel, ils ne sont pour l'instant que 2 joueurs à être touché. Il s'agit de 2 jeunes selon le club. Et rappelons qu'avec 4 cas positifs, une équipe est automatiquement mise en quarantaine par la Swiss Basketball League. Et selon le responsable communication du club, André Prémondier, une majorité de joueurs a reçu une 3e dose de vaccin ces derniers jours, staff y compris. Le club a déjà transmis qu'il apparaît comme primordial de se faire vacciner, car se pose aussi la question du Final Four de la Coupe de la Ligue qui se tiendra les 29 et 30 janvier prochains. Selon le règlement de la Ligue, si une équipe est mise en quarantaine durant la compétition ou juste avant, le club qui a terminé 5e du classement sera repêché et ainsi de suite. Il ne faudrait donc pas être mis en quarantaine. Du côté des blessés aussi, Johan Granvorka sera absent au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Touché au genou lors du match face à Monté, le joueur a passé une IRM hier et doit encore rencontrer un spécialiste d'ici la fin de semaine pour être complètement fixé. Également blessé lors de cette même rencontre, Daniel Giddens devrait être rapidement mis sur pied selon le club. Enfin, samedi, Union devrait pouvoir de nouveau compter sur Kylian Martin qui avait manqué le match face aux Valaisans. Enfin, il y a aussi une polémique avec laquelle le club doit faire. Le capitaine Brian Collomb aurait été victime d'insultes à caractère raciste de la part d'un supporter de Monté. L'information a été révélée par le joueur lors d'une interview sur Canal Alpha, mais n'a pas pu être vérifiée tant par les arbitres que par le club sur les enregistrements vidéo. Une enquête est ouverte par la Ligue et du côté de Monté. Brian Collomb, qui est soutenu par Union Neuchâtel, n'a pour l'instant pas formellement déposé de plainte.
Merci Yann Esler pour ce tour complet d'Union Neuchâtel basket. Et puis on termine par ce mot de tennis. Stéphanie Feugelé n'est plus qu'à une victoire de participer à l'Open d'Australie. La Govienne va disputer le 3e et dernier tour des qualifications à Melbourne ce matin. Elle s'est imposée 6-2, 6-4 contre l'américaine Whitney Osguve. Sa prochaine adversaire sera la néerlandaise Indy De Vroom.